Chapitre 9. Signes et présages. Je ne sais pas comment cela se fait, mais il me semble que je parle toujours de moi. Je ne prends jamais la plume qu'avec l'intention de m'oublier autant que possible et de m'occuper exclusivement des autres, et chaque fois que j'en reviens à mon histoire, j'éprouve une contrariété réelle. Je voudrais rentrer dans l'ombre et ne puis y parvenir. J'espère néanmoins que ceux qui liront ces pages comprendront que, si elles contiennent beaucoup de détails sur moi-même, c'est que vraiment c'était indispensable et qu'il était impossible que cela ne s'y trouvât pas. Nous étions presque toujours ensemble, Ada et moi, occupés à lire, à travailler, à faire de la musique, et notre temps était si bien employé que les journées d'hiver voltigeaient autour de nous comme des oiseaux à l'aile brillante. Richard nous donnait toutes ses soirées, la plupart de ses après-midi, et se plaisait beaucoup dans notre société, bien qu'il fût l'un des êtres les plus remuants qu'on pût trouver au monde. Il aimait beaucoup Ada, mais beaucoup, beaucoup. J'aurais pu le dire plus tôt, car je devinais tout de suite combien ils s'adoraient. Non pas que je le fisse voir, au contraire. J'étais si réservé à cet égard, et j'avais si bien l'air de ne me douter de rien, que je me demandais souvent, pendant que je travaillais assise à côté d'eux, si je ne devenais pas profondément dissimulé. Et pourtant, chaque jour, la dissimulation devenait plus difficile. Leur réserve, du moins en parole, égalait bien la mienne, mais l'innocente façon avec laquelle ils s'attachaient à moi de plus en plus, à mesure qu'ils s'aimaient davantage, avait tant de charme que j'avais bien de la peine à ne pas montrer l'intérêt que je prenais à leur amour. « Notre chère amie est si bonne, » disait Richard en venant me trouver dès le matin dans les allées du parterre. « C'est une si admirable petite femme. » Et avant de galoper par monts et par vaux comme un voleur de grand chemin, cela me fait tant de bien de me promener gravement avec elle, que me voilà encore ici, comme j'y étais hier. « Vous savez, Dame Durton, » me disait Ada, lorsque, remontée dans notre chambre, elle posait sa tête sur mon épaule, reflétant dans ses yeux la flamme de notre foyer, « vous savez bien que je n'ai pas besoin de causer, mais de rester là auprès de vous, à rêver en compagnie de votre cher visage, écoutant souffler le vent et songeant à ceux qui sont maintenant sur mer. » C'est que Richard parlait d'être marin. Nous en avions dit quelques mots, et il était question de satisfaire le penchant que, dans son enfance, il montrait pour les voyages. M. Jarndyce avait écrit à l'un des membres de la famille, au baronnet Sir Leicester Dedlock, pour qu'il s'intéressât en faveur de Richard, et Sir Leicester avait répondu gracieusement qu'il serait heureux de faire quelque chose pour M. Carstone, si toutefois c'était en son pouvoir, ce dont malheureusement il n'entrevoyait pas la probabilité. Que Milady envoyait ses compliments à ce jeune homme, à qui elle se souvenait parfaitement d'être unie par des liens de famille éloignés, et avait la ferme confiance qu'il ferait son devoir dans quelque profession honorable qu'il lui plût l'embrasser. « Il est très clair, me dit Richard, après la réception de ce billet, que je ne dois compter sur personne et faire mon chemin moi-même. Peu importe, après tout, bien des gens avant moi n'ont pas eu d'autre appui. Je voudrais seulement, pour commencer, être bien armé en course, afin de pouvoir m'emparer du grand chancelier, que je mettrai à la portion congrue jusqu'à ce qu'il eût terminé notre affaire. Il en deviendrait toujours moins épais s'il n'en devenait pas plus lucide. » Richard joignait aux plus heureuses dispositions qu'un jeune homme puisse avoir une gaieté inaltérable, mais malheureusement aussi une légèreté qui m'inquiétait d'autant plus qu'il appelait sagesse ce qui n'était qu'insouciance. Je ne puis mieux faire comprendre sa manière de calculer que d'en citer un exemple, à propos de l'argent que nous avions prêté à M. Skimpole. M. Jarndyce avait fini par en savoir le chiffre. Soit qu'il l'eût demandé à ce dernier, soit qu'il se fût adressé à Covins's, et avait remis la somme entre mes mains, en me priant de retenir ce que j'avais avancé, et de rendre le reste à Richard. Toutes les dépenses inutiles que celui-ci justifia par le recouvrement de ses 10 livres, et le nombre de fois dont il me parla de cet argent, comme s'il venait de le réaliser, ou qu'il l'eût toujours là de côté sous sa main, formerait, en les additionnant, une somme considérable. « Ma prudente petite mère, pourquoi pas ?» me disait-il quand, sans la moindre réflexion, il éprouva le besoin de donner 5 livres au briquetier, puisque j'ai retiré 10 livres de l'affaire Covins's. « Et comment cela, Richard ? » ?»« Vous savez bien que j'avais donné ces 10 livres avec plaisir, et ne comptez plus les ravoir. Vous ne pouvez pas nier cela.
Je ne le nie pas non plus.
Eh bien donc, puisque j'ai gagné 10 livres.
Mais ce sont les mêmes, m'insinuai-je.
Pas du tout. Ce sont 10 livres auxquels je ne m'attendais nullement. 10 livres de plus dans ma bourse, et que par conséquent je puis employer à n'importe quel usage.
Et lorsqu'il eut renoncé au don qu'il voulait faire, après avoir fini par comprendre que ce sacrifice n'eût produit aucun bien,
« Voyons, disait-il, j'ai économisé 5 livres sur l'affaire du briquetier. Si donc je puis faire un voyage à Londres, prendre la poste pour aller et revenir sans qu'il m'en coûte plus de 4 livres, j'en aurai une d'économiser, et l'économie est toujours une bonne chose. Un penny qu'on épargne est un penny gagné. »
Je ne crois pas qu'on pût voir une nature plus généreuse et plus ouverte que celle de Richard.
Au bout de quelques semaines, je le connaissais aussi bien que s'il eût été mon frère, ardent et brave, et d'une activité dévorante. Il n'en était pas moins d'une excessive douceur qui, sous l'influence d'Ada, en faisait le plus agréable de tous les compagnons, s'intéressant à toute chose, et si heureux, si confiant, si gai. Et moi qui les voyais s'adorer de plus en plus, sans en rien dire, chacun d'eux supposant que son amour était le plus grand des secrets, que ne soupçonnait pas même la personne adorée. Moi qui ne les quittais jamais, causant et me promenant avec eux, je n'étais guère moins enchanté, guère moins ravi qu'eux-mêmes de leurs délicieux rêves. Nous vivions ainsi lorsqu'un matin à déjeuner, M. Jarndyce reçut une lettre qu'il ouvrit en s'écriant « C'est de Boythorn ». Il la parcourut avec une joie évidente et s'arrêta au milieu de sa lecture pour nous dire que M. Boythorn venait à Bleak House. Nous étions ensemble au collège, il y a de cela 45 ans au moins, continua-t-il en frappant sur sa lettre qu'il posa sur la table. Lawrence Boythorn était le garçon le plus impétueux qui fût au monde, et il est resté le plus vif de tous les hommes que je connaisse. C'était l'enfant le plus robuste, le plus audacieux qu'on pût voir, et il est aujourd'hui tout ce qu'il était alors, plein de cœur, mais terriblement effrayant.
« Au physique, monsieur ?» demanda Richard.
« Un peu sous ce rapport, » répondit M. Jarndyce. « Il porte la tête en arrière comme un vieux soldat. J'ai 10 ans de moins que lui, mais il a 2 pouces de plus que moi. Des mains de forgeron, une vaste poitrine et des poumons. Je n'en connais pas de semblables. Il suffit qu'il parle, qu'il vienne à rire ou à ronfler, pour que les poutres de la maison s'ébranlent. » Toutefois, M. Jarndyce ne fit pas la plus légère allusion à la girouette, et nous pensâmes que c'était de bon augure. « Mais ce n'est pas de l'extérieur que je parle, » poursuivit mon tuteur. « C'est du moral de l'homme, de son caractère emporté, que je vous signale, Rick, Ada et vous aussi, petite femme, car vous y êtes tous intéressés. Le langage de Boythorn est aussi violent que sa parole est sonore, toujours dans les extrêmes et au superlatif. On le prendrait pour un ogre, et je crois qu'il passe pour tel dans l'esprit de certaines gens. Vous ne serez pas étonné de le voir me prendre sous sa protection, car il n'a pas oublié qu'en pension, où j'étais tout enfant, il cassa 2 dents, il vous en dira 6, à l'un de mes oppresseurs, et que c'est ainsi que notre amitié commença. Dame Durden, Boythorn et son domestique arriveront cet après-midi à Bleak House. Je veillais aux préparatifs nécessaires pour que rien ne manquât à la réception de notre hôte, et nous attendîmes M. Boythorn avec curiosité. L'après-midi était passé, la journée s'avançait, il n'avait pas paru. Le dîner avait été retardé 1 heure, et nous attendions toujours, assis autour de la cheminée, sans autre lumière que la lueur du foyer, quand ces paroles, prononcées d'une voix de stentor, retentirent dans l'antichambre. « Nous avons été trompés, Jarndyce, par un damné coquin, un misérable qui nous a fait tourner à droite au lieu de nous dire de prendre à gauche, le triple scélérat. Il faut que son père ait été un bien affreux vaurien pour avoir un tel fils. Je te le déclare, Jarndyce, je serais heureux de lui fracasser la tête.
« Penses-tu qu'il l'ait fait exprès ?» lui demanda mon tuteur.
« Je n'en ai pas le moindre doute. C'est un coquin qui doit passer sa vie à égarer les voyageurs. Sur mon âme, je n'ai jamais vu de plus mauvais air que le sien quand il m'a dit de tourner à droite. Et penser que je me suis trouvé face à face avec un tel scélérat sans lui faire sauter la cervelle.
« Passe encore pour les dents, » reprit M. Jarndyce.
M. Boythorn éclata de rire, et tout vibra dans la maison. « Tu n'as pas oublié ça, » poursuivit-il. « Ah, 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 quand j'y pense. Encore un fameux coquin.
La physionomie de ce garçon-là, quand il était enfant, exprimait assez de cruauté, de noire perfidie et de bassesse pour servir d'épouvantail dans un régiment de scélérats. Si je rencontrais demain dans la rue cet abominable despote, je l'abattrais sans façon comme un arbre pourri. « Je n'en doute pas, » répondit M. Jarndyce. « Mais veux-tu monter un instant dans ta chambre ?»« Sur mon âme, Jarndyce, » reprit notre hôte en consultant sa montre, « si tu avais été marié, j'aurais tourné brise à la porte du jardin et me serais enfui jusqu'au sommet de l'Himalaya plutôt que de me présenter à une heure aussi indue. »« Pas tout à fait aussi loin, » dit mon tuteur en souriant. « Sur ma vie, je l'aurais fait, » s'écria Boythorn. « Je ne voudrais pas pour rien au monde avoir eu la coupable insolence de faire attendre une maîtresse de maison jusqu'à l'heure où nous sommes. J'aimerais mieux me tuer, mais infiniment mieux. » Il monta l'escalier avec M. Jarndyce, et nous l'entendîmes faire retentir sa chambre de sa voix et de ses rires, dont l'écho le plus éloigné répétait le son joyeux, ainsi que bientôt nous le fîmes nous-mêmes, entraînés par cette gaieté contagieuse. Il y avait quelque chose de si franc et de si loyal dans sa voix forte et vibrante, dans sa verve furieuse, et ses superlatifs qui éclataient comme des canons chargés à poudre sans jamais blesser personne, que nous fûmes tout d'abord prévenus en sa faveur, impression dans laquelle son aspect nous confirma bientôt lorsque M. Jarndyce vint à nous le présenter. Non seulement c'était un beau vieillard, droit et vigoureux, avec une tête massive, couronnée de cheveux gris, la physionomie intelligente et noble quand il gardait le silence, une grande taille, une stature qui eût semblé trop forte s'il n'eût pas toujours été en mouvement, et un menton qui se serait peut-être doublé s'il ne s'était sans cesse agité avec ardeur. Mais encore, M. Boythorn avait les manières d'un si parfait gentleman. Sa politesse avait quelque chose de si chevaleresque, son visage s'éclairait parfois d'un sourire si affectueux et si doux. On voyait si bien qu'il se montrait tout entier, n'ayant rien à cacher, incapable, comme disait Richard, de se restreindre en quoi que ce soit, et déchargeant ses gros canons inoffensifs parce qu'il n'avait pas d'autres armes, que je le regardais à table avec un égal plaisir, soit qu'il causât en souriant avec Ada et moi, soit qu'il fût poussé par M. Jarndyce à quelques volées de superlatifs, ou bien que, relevant la tête comme un limier, il fît trembler les vitres de ses éclats de rire. « J'espère que tu as apporté ton oiseau, » lui demanda mon tuteur. « Ma foi, » répondit-il, « c'est bien le plus étonnant de tous les oiseaux d'Europe, la plus merveilleuse de toutes les créatures. Je ne le donnerai pas, même pour 10 000 guinées. J'ai constitué une rente à son profit au cas où il me survivrait. C'est un vrai phénomène pour l'intelligence et l'affection. D'ailleurs, son père avait été avant lui l'un des oiseaux les plus surprenants qui ait jamais vécu. » Le sujet de cet éloge était un petit serin, si bien apprivoisé, que le domestique de M. Boythorn l'ayant apporté sur son doigt, il vint se poser sur la tête de son maître, après avoir fait le tour de la pièce en voltigeant. Rien ne me sembla mieux peindre le caractère de M. Boythorn que de le lui entendre exprimer les sentiments les plus implacables avec cette petite créature si fragile, perchée tranquillement sur son front. « Sur mon âme, disait-il en tendant avec délicatesse une miette de pain aux canaries, si j'étais à ta place, Jarndyce, demain matin je saisirais à la gorge tous les maîtres de la chancellerie et je vous les secourais jusqu'à ce que leur argent eût roulé hors de leur poche et qu'on entendît sous leur peau les os claquer comme des castagnettes. Je voudrais obtenir un jugement de n'importe qui, par voie légale ou non. Et si tu veux me donner tes pleins pouvoirs, je me charge de cette affaire avec une extrême satisfaction. » Le petit canari, sans paraître inquiet de la violence de ses paroles, mangeait toujours ce que lui donnait son maître. « Je te remercie, Lawrence, » répondit M. Jarndyce en riant. « Mais le procès n'en est pas arrivé à ce point qu'on puisse en avancer la conclusion par le moyen que tu m'indiques, alors même qu'on prendrait à la gorge toute la magistrature et le barreau tout entier. » « Il n'y a jamais eu ici-bas un chaudron de sorcière comparable à cette affreuse chancellerie, » continua M. Boythorn. « Je ne vois pas d'autre réforme à tenter à son égard que de miner cette infernale boutique et de faire tout sauter un beau jour. Paperasse et fonctionnaires de haut et bas degré, depuis le diable qui engendra cette pétaudière jusqu'au trésorier général qu'elle engendra à son tour. » Il était impossible de ne pas rire du sérieux énergique avec lequel il recommandait cette mesure efficace. Et partageant bientôt l'hilarité qu'il avait fait naître, M. Boythorn éclata de rire à son tour. La vallée tout entière sembla lui faire écho, sans que cette gaieté ni cette parole bruyante inquiétât le canari, qui sautillait tranquillement sur la table, lançant la tête à droite, à gauche, et tournant tout à coup son œil brillant vers son maître, comme s'il n'avait vu dans M. Boythorn qu'un oiseau comme lui. « Où en es-tu avec ton voisin pour ce droit de passage que vous vous disputez ?» demanda M. Jarndyce. « Car tu n'es pas non plus à l'abri des tracas de la procédure. » « Le particulier a porté plainte contre moi comme étant coupable de délit à son égard. C'est bien le plus orgueilleux de tous les êtres qui aient jamais existé. Il est moralement impossible qu'il s'appelle Lester. Son nom est Lucifer. » « Très flatteur pour votre parent éloigné, » dit en riant M. Jarndyce à Richard et à Ada. « Je demanderai pardon à Miss Clare et à M. Carstone, » reprit notre hôte, « si je ne voyais, sur le charmant visage de cette jeune miss et dans le sourire de ce gentleman, qu'ils tiennent leurs parents éloignés à distance respectueuse. Dites plutôt que c'est lui qui nous tient éloignés, » répondit Richard. « Sur mon âme, » s'écria Boythorn, lançant tout à coup une volée de son artillerie, « ce triste personnage est bien, comme l'étaient avant lui son père et son grand-père, le plus sot animal, le plus franc imbécile, le plus roide et le plus arrogant de tous les êtres, qui, par une méprise inexplicable de la nature, occupe sur la terre une autre position que celle de canne de parade, la seule qui réponde à la roideur de son caractère et de son maintien. Cette famille n'a jamais compté que des imbéciles, solennellement entichés de leur mérite. Mais peu importe, il ne me fermera pas mon sentier. Eût-il 50 baronnets en lui-même, et posséda-t-il jusqu'à 100 Chesney Wold, les uns dans les autres, comme ces boules d'ivoire tournées par les Chinois. Ne me fait-il pas écrire par son agent, son secrétaire ou je ne sais qui, Sir Lester Dedlock, baronnet, présente ses compliments à M. Lawrence Boythorn et appelle son attention sur ce fait, que le droit de passage par le sentier conduisant à l'ancien presbytère, demeure actuelle de M. Boythorn, appartient exclusivement à Sir Lester, le dit sentier faisant partie effective du parc de Chesney Wold, par suite duquel droit, Sir Lester juge convenable de fermer le dit sentier. Je réponds dans le même style. M. Lawrence Boythorn présente ses compliments au baronnet Sir Lester Dedlock et appelle son attention sur ce fait, qu'il nie toutes les prétentions de Sir Lester Dedlock sur tout le reste et ajoute, relativement à la clôture du sentier, qu'il serait enchanté de connaître l'homme qui oserait l'entreprendre. Le baronnet m'envoie un exécrable borgne pour construire une barrière à l'entrée du sentier. Je joue de mon arme à feu sur l'ignoble coquin jusqu'à le laisser pour mort. Notre entêté persiste, et la barrière est élevée dans la nuit. J'en fais le lendemain matin des copeaux et je les brûle. Notre baronnet s'irrite, envoie ses myrmidons franchir mes palissades, traverser mon jardin. Je leur tends des pièges, leur fais éclater des fusées dans les jambes, et leur tire des coups de fusil, bien résolu de délivrer le genre humain de l'insupportable engeance de ces bandits nocturnes. Il porte plainte contre moi, j'en fais autant contre lui. Il m'attaque en sévices et voies de fait. Je plaide mon droit de légitime défense et continue ce qu'il appelle mes sévices et voies de fait. À l'entendre s'exprimer avec cette incroyable énergie, on l'aurait supposé le plus violent de tous les hommes. À le voir en même temps regarder son oiseau qui était perché sur son pouce et dont il satinait délicatement les plumes, on l'aurait pris pour l'être le plus doux, le plus inoffensif. Et chacun eût pensé, en regardant son visage ou en l'écoutant rire, qu'il n'avait pas de soucis, qu'il ignorait toute dispute et que sa vie tout entière s'écoulait comme un beau jour d'été. Non, non, ajouta-t-il, aucun Dedlock ne m'interdira ce passage. « Bien que je reconnaisse volontiers, » dit-il en changeant de ton immédiatement, « que Milady Dedlock est la femme la plus accomplie qu'il soit possible de voir, et à laquelle un vrai gentleman puisse jamais rendre hommage. Mais ce n'est pas un baronnet de 700 ans d'épaisseur qui clora mon sentier. Un homme qui est entré au régiment à 20 ans, et qui au bout de 8 jours avait défié le plus sot, le plus présomptueux, le plus impérieux de tous les officiers dont jamais l'uniforme ait étranglé la taille, et qui est sorti vainqueur de ce défi audacieux, ne se laissera pas arrêter par tous les sœurs Lester, morts ou vifs, avec ou sans barrière. Pas plus qu'il n'a souffert qu'on opprima son jeune ami sans défense, ajouta mon tuteur. Assurément, reprit M. Boythorn, en frappant sur l'épaule de M. Jarndyce, avec un air de protection où quelque chose de sérieux se mêlait au sourire. Cet homme est toujours là, prêt à défendre son petit camarade. Jarndyce, tu peux compter sur lui. Quant à la sotte affaire dont je parlais tout à l'heure, que Miss Claire et Miss Summerson veuillent bien me pardonner d'avoir développé si longuement un sujet si aride. Il n'est rien arrivé à mon adresse de la part de Ken chez Carboy ?
Je ne le pense pas. Esther, me dit Jarndyce.
Non, tuteur, répondis-je.
Merci, répliqua M. Boythorn. Je n'avais pas même besoin de le demander,
ayant vu tout de suite combien Miss Summerson est attentive pour tous ceux qui l'entourent.
Si j'en ai parlé, continua-t-il, c'est qu'arrivant du Lincolnshire, je ne suis pas allé à Londres,
et je pensais que quelques lettres avaient pu m'être envoyées ici. J'espère que demain matin elles m'annonceront que mon affaire va marcher.
Je le vis si souvent pendant le cours de la soirée, contempler Ada et Richard avec un plaisir qui donnait à son visage une expression des plus aimables, tandis qu'assis à quelque distance du piano, il écoutait la musique avec délices, que je demandais à mon tuteur, lorsque nous commençâmes la partie de Trictrac, si M. Boythorn était marié.
Non, me répondit M. Jarndyce.
Mais il en a eu l'intention.
Comment l'avez-vous deviné ? Reprit mon tuteur en souriant.
C'est que, répondis-je, non sans quelque embarras, il y a quelque chose de si affectueux dans ses manières. Il est si aimable, si attentif envers vous que...
Vous avez raison, petite femme, répondit mon tuteur. Il a été sur le point de se marier, une seule fois, il y a déjà longtemps.
La jeune fille est-elle morte ? Demandai-je.
Non, mais elle est morte pour lui. Cette circonstance a énormément influé sur sa vie et sur son caractère. Croiriez-vous jamais qu'il a encore le cœur et la tête d'un héros de roman ?
Cher tuteur, j'étais toute disposée à le deviner avant même que vous me l'eussiez dit.
Il n'a jamais été depuis lors tout ce qu'il aurait pu être, dit M. Jarndyce, et le voilà maintenant arrivé à la vieillesse, sans personne auprès de lui qu'un domestique et un oiseau.
C'est à vous de jouer, mon enfant.
Je compris que nous en étions au point où le vent allait changer si la conversation continuait, et je n'en dis pas davantage. Il y avait quelques instants que je repensais dans mon lit à cette vieille histoire d'amour, lorsque je fus réveillé par le ronflement sonore de notre hôte, et je tentai cette chose difficile, de me figurer un vieillard comme il était autrefois, et de le revêtir de toutes les grâces de la jeunesse. Je me rendormis avant d'y être parvenu, et je rêvai du temps où j'étais chez ma marraine. La science des songes m'est trop peu familière pour que je puisse savoir s'il y a dans ce fait quelque chose de remarquable. Mais il m'arrivait bien souvent de me retrouver dans mes rêves à cette époque de ma vie. Le lendemain matin, une lettre de messieurs Kenge et Carboy informa M. Boythorn qu'un de leurs clercs viendrait dans la journée pour s'entendre avec lui. Comme c'était précisément le jour de la semaine où j'expédiais mes paiements, mes comptes, mes affaires de ménage, que j'accumulais à dessein pour les traiter en bloc, je restai à la maison pendant que M. Jarndyce, Ada et Richard profitaient d'un temps magnifique pour faire une longue promenade. Quant à M. Boythorn, il devait attendre le clerc de M. Kenge et aller au-devant de nos promeneurs dès que sa conférence avec lui serait terminée. J'étais donc enfoncé dans mes comptes, examinant les livres des fournisseurs, additionnant des mémoires, enfilant des quittances et faisant à ce sujet pas mal de bruit et d'embarras, lorsque M. Gappé me fut annoncé. J'avais eu l'idée tout d'abord que l'envoyé de M. Kenge pourrait bien être le jeune homme qui m'avait reçu à Londres, et je fus contente d'avoir deviné juste et de revoir ce gentleman, parce que son nom était lié dans mon souvenir à mon bonheur actuel. Je l'aurais à peine reconnu tant sa toilette était pimpante. Habillé de neuf et tout flambant des pieds jusqu'à la tête, chapeau luisant, gants de chevreau lilas, cravate aux vives nuances, gros bouquet de fleurs à la boutonnière, bague en or aux petits doigts, et de plus répandant autour de lui un relent de graisse d'ours et de mille essences dont la salle à manger fut aussitôt parfumée. Je le priai de s'asseoir en lui indiquant un siège et lui demandai des nouvelles de M. Kenge, sans oser lever les yeux, car il fixait sur moi un regard si pénétrant que j'en étais toute confuse. Quand on vint l'avertir que M. Boythorn l'attendait, et qu'il eut à monter dans la chambre de ce gentleman, je le prévins qu'il trouverait en descendant une collation à laquelle M. Jarndyce espérait bien qu'il prendrait part. « Aurais-je l'honneur de vous retrouver ici, mademoiselle ? » demanda-t-il. « Oui, monsieur, » répondis-je. et il sortit en me lançant un nouveau regard et en me faisant un salut. Je supposai qu'il était naturellement gauche et timide, car évidemment il avait l'air embarrassé, et j'attendis son retour avec l'intention de veiller à ce que rien ne lui manquât, et de m'en aller ensuite, le laissant à lui-même. On apporta la collation, mais l'entrevue qu'avait M. Gappé avec M. Boythorn était longue, et j'imagine fort orageuse, car bien que la chambre de celui-ci fût assez éloignée, j'entendais s'élever de temps en temps la voix de notre hôte qui mugissait comme le vent dans la tempête et lançait probablement une bordée complète de récriminations et d'injures superlatives. Enfin, M. Gappé rentra, ayant l'air plus déconcerté que jamais par suite de ce bruyant entretien. « C'est un vrai tartare, » me dit-il à voix basse. « Veuillez, monsieur, prendre quelques rafraîchissements, » répondis-je en lui montrant la collation. Il se mit à table et se prit à aiguiser convulsivement le grand couteau sur la fourchette à découper, en me regardant toujours, ce dont j'étais bien sûr, quoique j'eusse les yeux baissés. L'aiguisement du couteau sur la fourchette durait depuis si longtemps que je me crus obligé de lever les yeux pour rompre le charme par lequel M. Gappé semblait enchaîné. Immédiatement, en effet, il regarda le plat qui se trouvait en face de lui et se mit à découper. « Que vous offrirai-je, mademoiselle? Ne prendrez-vous pas quelque chose ?» me demanda-t-il. « Merci, monsieur, je ne prendrai rien. »« Comment, je ne puis rien vous offrir ?» reprit M. Gappé en avalant précipitamment un verre de vin. « Rien du tout, monsieur. Je vous ai seulement attendu pour savoir si vous aviez besoin de quelque chose. » « Je vous suis bien reconnaissant, mademoiselle. J'ai tout ce que je puis désirer. Au moins, c'est-à-dire que, bien au contraire, il but deux verres de vin l'un après l'autre, et je pensais que je ferais mieux de m'en aller. « Mille pardons, mademoiselle, » me dit-il en se levant à son tour, « mais faites-moi la grâce de m'accorder une minute d'entretien. » Ne sachant pas ce qu'il avait à me dire, je consentis à me rasseoir. « Sous toute réserve, n'est-ce pas, mademoiselle ?» me demanda M. Gappé avec anxiété, en se rapprochant de ma table. « Je ne vous comprends pas, monsieur, » répliquai-je toute surprise. « C'est un de nos termes de procédure, mademoiselle. J'entends par là que, soit chez Kenge et Carboy, soit ailleurs, vous ne ferez pas usage, à mon détriment, des paroles que je vais prononcer. Que, dans le cas où cet entretien n'aboutirait à aucun résultat, je resterai dans la position où je me trouve actuellement. » et qu'il ne me causera nul préjudice, ni dans le présent, ni dans l'avenir. En un mot, qu'il s'agit d'une communication entièrement confidentielle. Je ne devine pas du tout ce que vous pouvez avoir à me confier. Mais, croyez-le, monsieur, je serais désolé de vous porter un préjudice quelconque. Merci, mademoiselle, j'en suis intimement convaincu, et cela me suffit complètement. Monsieur Gappé n'avait pas cessé pendant toutes ces paroles de frotter la paume de sa main droite contre celle de sa main gauche, si ce n'est pour se polir le front avec son mouchoir de poche. « Si vous voulez me permettre de prendre un autre verre de vin, je crois, mademoiselle, que j'en surmonterai mieux le hoquet qui m'oppresse, et qui serait également désagréable et pour vous et pour moi. » Il but de nouveau et revint auprès de ma table, derrière laquelle je m'étais retranché. « Vous ne voulez pas que je vous en offre un verre, mademoiselle ?» me dit M. Gappé, quelque peu restauré par cette nouvelle libation. « Non, monsieur. Pas un demi-verre, pas même un quart. Eh bien alors, procédons. Mes appointements s'élèvent aujourd'hui chez Kenge et Carboy à 2 livres par semaine. Quand j'eus le bonheur de vous voir pour la première fois, Miss Summerson, il n'était que 1,15 livres, chiffre auquel depuis longtemps il se trouvait fixé. Ils se sont donc élevés de 5 shillings depuis cette époque, et pareille augmentation m'est garantie dans un an, à dater d'aujourd'hui. Ma mère possède une petite propriété dont l'usufruit la fait vivre d'une manière indépendante, quoique modeste, dans Old Street Road. Elle est éminemment qualifiée pour être une belle-mère accomplie, ne se mêle jamais de rien, est pour la paix quand même et du caractère le plus facile à vivre. Elle a ses défauts, qui n'en a pas. Mais je ne l'ai jamais vu manquer aux convenances en présence de personne. Et vous pourrez lui confier en toute sûreté le vin, la liqueur et la bière. Quant à moi, je loge Penton Place, Pentonville. C'est un peu bas, mais aéré, ouvert par derrière et considéré comme l'un des quartiers les plus sains. Miss Summerson, je vous adore. Soyez assez bonne pour prendre acte de ma déclaration et pour me permettre de l'appuyer, si je puis parler ainsi, d'une offre de mariage. Monsieur Gapet s'agenouilla devant moi. J'étais fort à l'aise derrière ma table et point du tout effrayé. « Quittez, lui dis-je, cette position ridicule où je me verrai forcé de manquer à ma parole et de tirer la sonnette. « Écoutez, mademoiselle, dit Monsieur Gapet en joignant les mains. Je n'écouterai pas un mot avant que vous ayez repris la place que vous n'auriez pas quittée si vous aviez eu le sens commun. » Il se leva d'un air piteux et alla se rasseoir comme je le lui disais. « Quelle dérision, mademoiselle, reprit-il en posant la main sur son cœur et en secouant la tête avec mélancolie. Quelle dérision que de se trouver en face d'aliments quelconques dans un pareil moment. L'âme recule devant toute nourriture, mademoiselle, quand elle est si profondément émue. Monsieur, lui dis-je, vous m'avez prié de vous écouter, et je vous demande à mon tour de vouloir bien en rester là. Oui, mademoiselle, répondit-il, car mon obéissance égale mon amour et mon respect. Plût à Dieu que je puisse un jour te le jurer devant l'autel. C'est impossible, répliquai-je. Il ne faut pas parler de cela. Je ne suis pas sans savoir, continua M. Gapet en se penchant au-dessus du plateau et en fixant sur moi ce regard ardent que je devinais sans le voir, car mes yeux étaient détournés des siens. Je ne suis pas sans savoir que sous le rapport des biens de ce monde, la proposition que je vous ai faite paraît offrir peu d'avantages. Mais écoutez, Miss Summerson, ange du ciel, ne sonnez pas. J'ai été élevé à une rude école. Je suis accoutumé au travail et à tout ce qui concerne la pratique judiciaire. Quoique bien jeune encore, j'ai découvert des preuves, gagné des causes et acquis une profonde expérience. Que ne ferais-je pas si j'avais le bonheur de posséder votre main? Que ne ferais-je pas pour servir vos intérêts et pour avancer votre fortune? Quels moyens n'aurais-je pas d'apprendre tout ce qui vous concerne? Je ne sais rien aujourd'hui, mais que ne pourrais-je pas découvrir si j'avais votre confiance et que vous voulussiez encourager mes efforts? Je lui répondis qu'il ne réussirait pas plus en invoquant mes intérêts qu'en s'adressant à mes sentiments, et que je le priais de comprendre que tout ce que je lui demandais, c'était de partir immédiatement. « Cruel ! S'écria-t-il, un seul mot encore. Vous avez dû voir combien j'étais frappé de votre beauté le jour où je vous aperçus pour la première fois dans la cour du Cheval Blanc. Vous avez remarqué, je n'en doute pas, qu'il me fut impossible de ne point payer tribut à vos charmes, quand j'ai relevé le marchepied du fiacre où vous étiez monté. Faible tribut, j'en conviens, mais partant d'un cœur sincère. Et depuis lors, ton image est gravée dans mon cœur. J'ai passé toute ma vie à me promener devant la maison de Mrs. Jellyby, rien que pour regarder les murailles qui te renfermaient, céleste créature. Cette course aujourd'hui, complètement inutile, ainsi que le message qui lui sert de prétexte, a été projeté par moi dans le seul but de te revoir. Et si j'ai parlé d'intérêt, c'était pour me recommander et me servir d'appui dans mon triste sort. Mais l'amour était avant tout dans mon cœur, où il domine.